Bonjour à tous, c'est la seule émission qui n'a pas de nom et j'ai envie de chanter une belle chanson et dire oh mon ba a a a to oh 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 oh. Et je vais essayer de lancer le jingle et j'y crois, mais plus que jamais quoi. Parce que ça va être trop bien aujourd'hui.
La seule émission qui n'a pas de nom.
La seule émission qui n'a pas de nom, c'est bien. Parce que c'est dans tes oreilles. Cool. Hein. Ça va pas de nom. Ça va pas de nom. Comment ça? Ça va pas de nom. Ça va pas de nom.
Ça va pas de nom.
Ça va pas de nom.
Ça va pas de nom. Ça va pas de nom. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça va pas nous quand même. Eh, oh. Hein?
Tabalap papa.
Tagalap papap. Alors salut à tous, bienvenue dans la seule émission qui n'a pas de nom. Comme dirait Florent Pagny, bienvenue chez moi. Oui, j'ai envie d'utiliser des références de grands penseurs contemporains. Alors j'ai hésité à utiliser une citation de Michael Vendetta, mais elles sont tellement profondes que je les comprends même pas. Alors la seule émission qui n'a pas de nom, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Bip, et pas Bit, hein, où l'on parle beaucoup de politique en ce moment, mais avec une petite touche de divertissement. Par exemple, là je pourrais énumérer tous les candidats à la présidentielle de 2012 en y incluant des petits bruits de paix. Par exemple, Sarko, Mélenchon, ce serait super rigolo. Ce serait de l'humour bien fin et puis de la politique bien dans le fond. L'humour fin comme une anorexique qui vient de vomir son lourd repas, constitué de 5 grammes de riz. Alors je vais quand même finir par présenter la personne qui m'aide à animer cette imposture radiophonique. Il s'agit de Michel. Salut l'artiste, comme on dirait dans les grands médias.
Bonjour tout le monde. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec tout Twitter qui est là avec moi et qui va pouvoir participer à l'émission via le hashtag LSEQNPDN, que j'ai toujours appris à dire.
LSEQNPDN, c'est simplement les abréviations.
Voilà, donc comme ça, vous pouvez intervenir si vous avez des réactions ou des questions à poser à nos invités.
Voilà, très bien Michel, quelle belle présentation. Alors on va vivre un grand moment de radio aujourd'hui, ça va être un peu la lutte des classes. Est-ce que tu es prêt pour ce moment?
Oui, d'ailleurs je vais demander à nos invités, pour le bien de ce débat, que Monsieur Serena arrête de tripoter sa Rolex et que Monsieur Gérardin enlève ce couteau qu'il a entre les dents, parce que ça commence à déjà un peu fort.
Ah, c'est révolutionnaire. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui on va vivre une lutte des classes, parce qu'on a deux jeunes militants politiques, Alors vont-ils le faire à l'ancienne, ce débat, façon Pergo à s'arracher des boutons à tirer l'arigot? Espérons tout de même qu'ils s'arrêteront de se tailler des boutonnières. Ne vous vexez pas, chers invités, je suis pas en train de sous-entendre que vous avez de l'acné et que vous soyez assez cons pour couper vos boutons. Bon, pour rectifier le tir, je vais utiliser une autre métaphore, je vais parler d'une querelle de clochers. Non, vous vexez pas, je suis pas en train de sous-entendre que vous êtes des cloches, les invités. Bon, j'arrête les jeux de mots pourris et de vous offusquer, les invités. Et je vais passer à la sympathique présentation que j'ai préparée de vous, histoire de vous introduire aux auditeurs. Alors, à l'extrême droite politique de ce débat, à la droite politique de ce débat, et à ma gauche visuelle, c'est étrange d'ailleurs, il travaille dans l'alimentation et alimente le débat politique sur Twitter par des saillies pas toujours orthographiquement correctes. Et moi, je suis pas orthographiquement correct à l'oral, mais c'est pas grave. Il a un cadre avec une photo de notre président et j'espère qu'il respectera le cadre de ce débat sous peine de se voir infliger un casto pauvco. Qu'est-ce que j'imite bien. Il n'aime pas les assistés ou l'assistana et vient pourtant leur parler sur une radio gauchiste à une heure où seuls eux peuvent nous écouter. J'espère qu'il est serein et qu'il n'appellera pas sa fille William. Il est le responsable départemental des jeunes populaires du Doubs, populaire comme le Fouquet's. Je veux parler du fameux, et non pas fumeux, car il milite contre la tabagie. Il s'agit de Baptiste Serena. Bonjour Baptiste, élogieuse cette présentation, non?
Bonjour, élogieuse, c'est pas le mot que j'emploierai en premier, mais sympathique on va dire.
Merci. On va présenter ton adversaire ou ton collègue, ton concurrent, et je vais régler mon micro en même temps, voilà. Donc à l'extrême gauche politique de ce débat, à la gauche, décidément, j'ai du mal. Il est diplômé en histoire et cherche à l'enseigner. Il nous raconte des histoires sur Twitter afin de chercher à nous enseigner l'amour pour son maître à penser, le grand Jean-Luc Mélenchon, en son nom, mais aussi pour le parti de gauche du Doubs. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas nous traiter de larbin de journaliste, car nous ne sommes pas ni larbin ni journaliste. Il a probablement un exemplaire du Capital, le bouquin de Marx, hein, pas la revue économique néolibérale. Il porte le même prénom que la personne avec qui il va débattre, le P en moins. Peut-être c'est pour éviter les odeurs. Il doit être un peu stressé car c'est sa première à la radio. On a payé une prostituée afin de le détendre sous la table. Ce qui expliquera s'il fait des petits glapissements. Et il s'agit de Baptiste Gérardin du Parti de Gauche. Bonjour Baptiste Gérardin.
Bonjour.
Quelle belle voix. C'est une présentation qui te va?
Oui, j'aurais une petite nuance quand même sur Mélenchon, maître à penser. C'est juste quelqu'un qui défend les mêmes idées, les convictions que j'avais déjà avant. Et donc, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va avoir une influence majeure sur ma conception des choses. C'est quelqu'un qui est plutôt mon porte-voix dans les médias et sur la scène politique.
Surtout qui fait plus 1,60 que 1 mètre, en l'occurrence.
En tout cas, t'as un sacré sens de la fête, Baptiste, ça s'entend dans ta voix. Ah oui, faut que je trouve une façon pour vous différencier. Alors, Baptiste Serena, je t'appellerai Baptiste. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors, on va commencer parce que je voulais rendre un petit hommage vite fait avant de poser les petites questions. Alors, ça va vous faire chier, c'est long, je suis désolé, mes invités. Je me dois de le faire parce que la démocratie va mal. Oui, je voulais rendre un hommage à des hommes qui nous ont quittés trop tôt. Nous sommes tous en deuil. Comment la vie politique locale pourra se remettre de ces pertes? J'en ai pleuré toute la semaine. Je suis tellement sous le choc que j'ai pensé au suicide. Comme tous les franco-toi, je pense d'ailleurs. C'est très mauvaise nouvelle, c'est la non-présentation du député Jean-Marie Binetruy, la démission d'Edouard Sassard de son poste de conseiller municipal, et la triste nouvelle pour les Vésuliens. Alain Joyandet quitte ses responsabilités de premier idylle de cette grande métropole, que dis-je, mégalopole qu'est Vesoul. Peut-être se sent-il inutile face au charisme et à la prestance de notre président. Alors voilà, c'était juste un petit hommage que je voulais rendre à ces démissionnaires de l'UMP. Alors Baptiste Serena, est-ce que tu sais pourquoi ils sont plus là? Pourquoi ils s'en vont? Pourquoi ils quittent le navire?
Alors tout simplement, donc Edouard Sassard, c'est pour des raisons professionnelles comme il l'a dit. Donc c'est un choix et je trouve que c'est un choix plutôt loyal. Parce qu'il y en a, ils peuvent plus assumer leur mandat, mais ils restent quand même là pour avoir le titre. Ensuite, concernant Jean-Marie Binetruy, Alain Joyandet, c'est un peu pour la même chose, tout simplement pour passer la main. Parce qu'il y a un moment, il faut savoir, en politique, faire de la politique, c'est bien, agir, c'est bien. Par contre, sur la durée, oui, mais il y a un moment, il faut s'arrêter. Donc pour Alain Joyandet, il l'avait déjà dit lors des régionales, maintenant c'est quelque chose qu'il a fait. Il va passer la main donc à Alain Chrétien, qui est quelqu'un vraiment de bien, qui s'occupera donc de la mairie de Vesoul et de la communauté d'agglomération de Vesoul. Et concernant Jean-Marie Binetruy, il a souhaité mettre un terme à son mandat de parlementaire, enfin à pas se représenter.
Et par rapport à lui, j'ai entendu des bruits qui disaient qu'il en avait marre de se faire insulter par rapport à la politique de Sarkozy. Est-ce que c'est vrai?
Non, pas du tout, parce que d'ailleurs il restera président du comité départemental de l'UMP du Doubs, donc c'est pas un dégoût de la politique ou quoi que ce soit. Et tout simplement, il estime qu'il a fait deux mandats, qu'il en a assez, puisque après il aura, au cours du prochain mandat, s'il en refait un, il passera la barre des 70 ans. Il estime que ça a rien de s'accrocher à un poste. Et je trouve que c'est plutôt bien aussi de laisser la place à des plus jeunes, à des gens qui ont d'autres idées, enfin qui restent dans la famille politique de l'UMP,
mais qui ont
des autres idées. Comment?
T'es dans la course?
Ah non, pas du tout. Moi, j'habite Besançon, je reste sur Besançon, donc pour rien cacher, on sait que Annie Genevard, donc la mairesse de Morteau, aimerait bien y aller. Et franchement, moi, c'est un souhait aussi que j'y mets. C'est une femme qui est pleine de convictions, pleine d'énergie, et je pense que ça serait une bonne députée pour le Haut-Doubs, surtout qu'elle se défend beaucoup pour les territoires, à la région, ou même en tant que maire de Morteau.
Après, pour revenir sur Besançon, donc sur du plus local, quand même, on est à même pas mi-mandat, le fait d'arrêter son rôle électif à mi-mandat, est-ce que c'est pas une preuve un peu d'irresponsabilité à ce moment-là? Pourquoi se présenter si on peut pas assumer un mandat électif?
Non, on progresse sur le plan professionnel, on souhaite faire un choix, le professionnel ou le politique, il a choisi le professionnel. Non, moi je trouve que c'est... Voilà, il y en a plein qui sont engagés, hein. Pour parler de la majorité municipale, on a une adjointe qui était adjointe chargée de la santé, qui est partie en retraite et du coup qui a quitté Besançon et qui s'arrête aussi, alors qu'elle savait qu'elle allait partir en retraite, alors que Sassard ne savait peut-être pas forcément que du côté professionnel ça allait bien évoluer.
En général, hein, je parlais pas forcément d'abord, quand on s'engage dans un mandat, le minimum est quand même peut-être de l'assurer.
Ah non, mais je suis entièrement d'accord, mais quand on peut... Moi, j'ai toujours dit, le jour où je peux plus faire ma mission de responsable départemental des jeunes UMP, j'arrêterai. Mais c'est vrai, je suis d'accord que quand on s'engage, on doit aller jusqu'au bout. Bah bon, après.
On va peut-être pas faire l'heure dessus, hein.
Non, peut-être pas non plus, mais voilà, j'estime que s'en aller aussi quand on dit, ben, je suis pas capable, ben, enfin, je peux plus assumer, ben, c'est loyal.
Baptiste, avec un T, ça t'a attristé, ces mauvaises nouvelles pour la démocratie locale?
Non, non, pas plus que ça. Nous, au parti de gauche, un de nos mots d'ordre, c'est qu'ils s'en aillent tous, donc on est plutôt contents. Bon, il en reste encore pas mal, hein, il y a encore du boulot à faire. Après, malheureusement, j'ai cru comprendre, enfin, je dis pas la presse people, mais il me semble l'avoir lu sur ma commune, enfin, on n'est pas loin, mais de la presse people. Mais que Joyandet, il céderait la mairie de Vesoul pour se concentrer sur les législatives, enfin, il me semble.
Et sur la campagne à Sarkozy, moi j'avais entendu dire.
Moi j'avais entendu sur la vente de yachts.
Je pense qu'il y a un peu d'étroit.
Bon, on va initier le prochain débat, parce que vous êtes des jeunes, et je me suis dit on va parler de trucs de jeunes. Alors on va écouter la petite musique.
Tout de suite la question. Combien de consommateurs réguliers de cannabis y a-t-il en France? À peu près. Hein.
À un pétard près.
C'est une question de rapidité, je vous rappelle.
500 000.
D'accord.
Baptiste, avec un T, tu dirais combien?
Je dirais au moins 1 million.
Eh bien, c'est toi qui es le plus près. Ouais. Il y en a 1,2 million de consommateurs réguliers d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y aura aussi 3,9 millions de consommateurs moins réguliers. Et 38% des 15-16 ans ont déjà essayé. Donc, ce qui entraîne ma question suivante. Que faire pour le cannabis? Doit-on les enfermer, les soigner, le légaliser pour faire des rentrées d'argent, pour sauver notre dette, ou simplement les fumer? J'en sais rien, moi. Baptiste, est-ce que tu veux commencer à parler en premier, ou est-ce que tu veux laisser la main à Baptiste?
Oh, je veux bien parler en premier.
Vas-y.
Je trouve que c'est une question complexe qui mérite qu'il y ait un débat. Je pense que vous avez peut-être vu l'émission sur France 2, donc Mélenchon a été interrogé là-dessus dans Des paroles et des actes. Il a essayé de replacer la consommation de cannabis dans le cadre plus large de la consommation de psychotropes. Parce que en France, on a le record d'Europe de la consommation de psychotropes légaux, donc des médocs. Nous, en front gauche, on pense que c'est pas mieux que le cannabis, et pourtant c'est toléré. Et une chose est sûre en tout cas, c'est que s'acharner sur les petits consommateurs, c'est pas ça qui va régler le problème. S'il y a une lutte à mener, c'est plutôt contre les trafics. Et je pense que de ce point de vue, la légalisation, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour ça. Parce que les trafics de cannabis, ben, c'est un peu les mêmes réseaux que les trafics de drogue dure, on va dire, éventuellement trafic d'armes, etc. Donc il y a un vrai travail à mener à ce niveau, je pense.
Baptiste.
Ben, c'est une drôle de conception, en fait, vouloir légaliser le cannabis pour lutter contre la consommation de cannabis, c'est un peu bizarre. À ce compte-là, on va légaliser le meurtre, on va légaliser la mafia, on va tout légaliser lutter.
Ça serait une source de revenus non négligeable, hein, quand même, parce que les tueurs à gages, c'est quand même pas donné, hein.
Pour redevenir sérieux à propos du cannabis, c'est un vrai problème de santé aussi, de santé publique. Je pense que tu parlais des petits consommateurs, mais il n'y a pas de petits consommateurs en fait. Le gars qui consomme pas beaucoup de cannabis, c'est déjà trop, et on va passer par lui justement pour remonter la filière et pour mettre fin à tout ce trafic, etc. En plus, légaliser le cannabis, c'est vraiment dire allez-y. C'est ouvert à tous, c'est comme acheter un paquet de bonbons, aller acheter du cannabis, c'est pas grave.
C'est comme aller acheter une bouteille de vin aussi, non?
C'est quand même différent.
C'est plutôt ça, ouais.
C'est quand même différent. Le vin, faut dire, je vais prendre mon côté traditionnaliste, mais c'est quand même une tradition française, ça fait partie de la gastronomie, et ça fait quand même, même dose, beaucoup moins de ravages.
Toutes les études ne vont pas dans ce sens, mais bon. Et puis c'est dans la gastronomie jamaïcaine aussi. Est-ce que tu as déjà été confronté au cannabis? Est-ce que tu en as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu des gens qui en fumaient? Ou Baptiste de l'UMP?
D'accord. Oui, j'en ai déjà vu qu'en fumaient. Moi, j'en ai jamais fumé. Voilà, c'est...
Est-ce que les gens, ils te semblaient fous? Ils semblaient prêts à tuer père et mère pour en retrouver
Non, mais au-delà du côté de tuer ou de faire des actes sans avoir conscience, il y a un problème de santé publique aussi. Hein, le cannabis, c'est... quand même pas la meilleure solution pour rester en bonne
santé. Un problème de santé publique qu'on n'a pas avec l'alcool?
Si, mais c'est pas la même consommation. Et tu parlais de vin, et le vin, c'est pas pareil que l'alcool fort.
Ouais. Et toi, Baptiste, avec un T, toi, en plus, t'es à la faculté, donc tu dois en voir, à la fac de lettres, tu dois en voir des gens qui fument, non?
90% là, le taux, hein.
Ouais. disons que je connais beaucoup de consommateurs réguliers, et pour moi, ils n'ont rien de délinquant. Ce que je constate, c'est que la réponse de l'UMP, ben, c'est la même que pour à peu près tout, c'est la répression, mais en s'en prenant aux petits, pas aux gros. Et du coup, on le voit bien avec la BAC, donc la brigade anticriminelle, qui est censée lutter contre ça. Et en fait, elle s'en prend aux petits consommateurs. Et il y a pas du tout le travail de démantèlement des trafics qui est fait par la BAC. Donc pour moi, c'est pas la réponse au problème.
Alors, tu semblais pas trop d'accord, non, Baptiste de l'UMP?
Non, pas trop, puisque justement, c'est le petit délinquant et on remonte le petit consommateur et on remonte la filière grâce à ces personnes-là. Et on s'en prend pas aux petits. Il faut dire aussi que dans le milieu, même si je le connais pas trop, mais les plus petits consommateurs, ils sont pas protégés par les grands trafiquants. Donc c'est eux qu'on arrive à interpeller en premier, et après on remonte la filière tout simplement.
T'as pas peur de te faire des ennemis dans les beaux quartiers, parce que quand même on sait qu'il y a quand même beaucoup de consommateurs qui sont issus des beaux quartiers, je pense, notamment c'est de notoriété publique sur Paris plus.
Oui, non, mais moi j'ai pas peur de dire des choses, de me faire des ennemis, quoi. Je dis ce que je pense.
Alors, une question aussi qui vient de Parti Radical du pays de Montbéliard, oui. Qui demande, en cas de légalisation, à quel régime de TVA sera soumis le cannabis, à votre avis? TVA réduite ou pas?
Je pense pas. Personnellement, je pense pas qu'ils vont mettre une TVA réduite sur un produit de ce genre.
D'accord.
Par rapport à ce que disait Baptiste Serena, je constate, j'ai des amis qui ont eu des problèmes avec la police, on va dire, pour des problèmes de consommation, et ils ont eu pas mal d'emmerdes, mais rien n'a été fait pour essayer de remonter à la source des trafiquants, etc. Donc je pense que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est inexact. Après, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet, si...
Okay.
Alors, si tu veux passer au tour.
Tout de suite, passons au thème suivant.
Étape suivante, avec une belle chanson pour l'illustrer. Ah, ça danse dans le studio, on voit les doigts qui se lèvent, c'est pas vrai.
Évidemment, la question vraiment d'actualité. Quelle est la consommation annuelle d'un lave-linge AAA en kilowattheure pour une année? Environ. Hein.
Beaucoup trop.
Tu veux dire que tu ne laves pas ton linge?
Avec le programme économique.
Donc, allez, une réponse à peu près.
Un chiffre, hein, au hasard.
J'en ai absolument aucune idée, donc...
Ouais, moi non plus.
Sinon, on va devoir jouer ça à Shifumi, puis c'est pas très radiogénique.
Je vais laisser la main, du coup.
Tu laisses la main, ok.
Bon, bah très bien. C'était 173 kWh pour les auditeurs, quand même, qui se cultivent un peu.
Ah oui, c'est de la grande culture, comme on en a besoin dans notre vie. Bah, vous l'avez compris, le « ah, 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 ah » que je fais très bien, il représente la perte de notre triple A. Tous ces gens qui pleurent, la fin du monde, les taux d'intérêt qui vont grimper. Alors, je voulais savoir déjà ce que vous en pensiez en général de cette perte du triple A et les conséquences que vous pensez que ça va avoir sur notre économie, sur notre vie de tous les jours.
Donc, ben, la perte du triple A, donc, on l'attendait quand même un petit peu. Donc, au fait, les agences de notation, faut pas oublier qu'il y a un an, très peu de personnes les connaissaient, à part des banquiers. Maintenant, elles dirigent tout. On voit, Berlusconi en a fait les frais, etc.
C'est triste, non, pour vous? Vous l'aimiez bien, à l'UMP?
Bah, c'est triste, pas que pour l'UMP. Je pense que pour tout le monde, c'est pas une bonne nouvelle.
Que Berlusconi... Pour les prostituées aussi.
Ah non, qu'on perde le triple A, hein, Berlusconi, c'est autre chose. Qu'on perde le triple A, je pense que c'est une triste nouvelle pour tout le monde, hein, gauche ou droite. Mais on était rétrogradé que d'une seule note, hein. On est quand même AA+. Les États-Unis l'ont perdu bien avant nous. C'est pas pour autant qu'il y a eu
On se souvient que la presse à l'époque était quand même limite si c'était pas cataclysmique, puis au final il s'est rien passé.
Oui, justement, c'est perdre le triple A, c'est embêtant, mais c'est pas non plus dramatique. On n'est pas dans la situation de la Grèce, et voilà.
Alors, pourquoi c'est devenu un thème central de l'UMP pendant les derniers mois? Il fallait à tout prix garder le triple A, un peu comme il fallait sauver le soldat Ryan, là il fallait garder le triple A.
Parce que garder le triple A, c'était mieux. Par contre, l'UMP en a parlé, tout simplement parce qu'on leur posait des questions et que les médias, ils ont monté le triple A. Et d'ailleurs, le triple A, c'est pas une affaire du tout politique. C'est tout simplement que... Ben voilà, c'est une notation qui est arrivée et ça renforce justement le gouvernement dans dans le souci de faire des économies, ça les renforce puisqu'on a été dégradé que d'un seul rang. Et il faut pas oublier que le triple A, je pense que tous les, quel que soit le président de la République, on aurait perdu le triple A. Et je pense que pour certains, on en serait déjà tout simplement au A. On en aurait peut-être déjà perdu deux. Donc voilà.
Et les conséquences ?
Les conséquences, ben ça va pas tellement changer sur le taux puisque le taux, ça fait déjà plusieurs mois qu'il était passé déjà comme si on était à A+, hein, même quand on avait encore le triple A. Donc ça veut pas les changer de beaucoup. C'est pas une bonne nouvelle, mais je pense que le gouvernement va la surmonter.
Vas-y Michel.
Non, on va voir la réaction de l'autre Baptiste.
Du Baptiste sans paix.
Ouais, donc je suis assez amusé par le début de la réponse de Baptiste Serena, parce qu'il a avoué, en gros, que c'est les agences de notation qui commandaient, hein, et donc qui dictaient aux États la politique qu'ils devaient mener. Et moi, je me souviens d'un Sarkozy qui a fait ses vœux il n'y a pas longtemps, et qui a dit que la finance ne lui dicterait pas sa politique. Donc là, je vois un petit paradoxe. Bon, après, quelqu'un qui dit que la finance ne va pas lui dicter sa politique, et qui s'en est servi, qu'il a utilisé comme justification pour faire la réforme des retraites, je trouve ça assez marrant aussi. Donc pour la perte du triple A, on nous a fait avaler deux plans d'austérité sous prétexte de le conserver, ce triple A. On a bien vu l'effet, hein. Ça a servi à rien, donc on a encore fait payer ça aux classes populaires. Et maintenant le gouvernement, il va nous proposer d'autres sacrifices inutiles pour essayer de retrouver une bonne image auprès des agences de notation, avec le succès auquel on peut s'attendre. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que les spéculateurs, c'est des vautours. Plus on leur en donne, plus ils en réclament. Et il y en a un peu marre là de sacrifier les peuples sur l'autel de la finance. Je pense que il faut que les politiques qui ont abandonné leur pouvoir au profit de la finance, et notamment des agences de notation, les politiques qui doivent reprendre ce pouvoir et arrêter de se faire dicter leur politique par le monde de la finance. Voilà.
Alors, je reprends une question de Twitter de Bezaktov, donc qui, en fait, je l'ai élargi un peu. Du coup, quel est le vrai impact aujourd'hui des économies que peuvent réaliser le gouvernement si au final si les marchés se décident que c'est pas viable, n'importe quelle économie qui serait réalisée par l'État ne serait pas intéressant.
Elle est bien claire ta question.
Donc en gros, quel est l'impact aujourd'hui de l'État si finalement c'est le marché qui décide, pour résumer.
Baptiste, à toi.
C'est pas les finances qui décident. Elles aiguillent, on va dire, elles aiguillent la politique des gouvernements. Et forcément, on est obligé d'en tenir compte. Dans la mondialisation, forcément, il y a la finance. Et on ne peut pas faire sans la finance, et quel que soit le parti politique. Demain, je ne le souhaite pas, mais demain, on a Mélenchon au pouvoir, il n'aura pas le choix. Il faudra faire avec le monde financier. Et voilà, le monde financier ne dicte pas, mais il aiguille quand même certaines décisions qui doivent être prises.
Alors, Baptiste, est-ce que Mélenchon va faire avec le pouvoir financier, comme dit Baptiste ?
Le problème actuellement, il repose sur le fait que les États, ils ont renoncé à se financer auprès de leur banque centrale. Et donc, du coup, ils dépendent depuis les années 70 des marchés financiers internationaux. Et la solution qu'on peut apporter à ces attaques de la finance, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, la dégradation de la note, ils savent très bien que dégrader la note de la France, ça va entraîner une augmentation des intérêts, donc une explosion de la dette. Si on voulait vraiment lutter contre ça, eh bien la Banque Centrale Européenne prêterait à la France au taux auquel actuellement elle prête aux banques, c'est-à-dire à peu près 1%. Et là, il y aurait plus de spéculation possible.
Et est-ce que ça te fait plaisir que Marine Le Pen ait la même solution que toi pour le coup, sur ces histoires de dette, le retour de la banque souveraine ?
Je sais pas si Marine Le Pen, elle parle de la Banque Centrale Européenne quand elle...
Elle veut quand même remettre
une banque de France bien française.
Est-ce que il y en a un de vous deux qui a une explication sur le fait que le Japon, qui est bien plus endetté que nous en pourcentage, emprunte à des taux bien plus bas? Est-ce que vous avez un peu les idées des mécanismes qui font que ça se passe comme ça?
Vu leur regard, à mon avis, non.
si. Déjà, le Japon, c'est un des États qui emprunte auprès des nationaux, donc des Japonais. Et donc le Japon n'est pas exposé du tout à cette spéculation du monde de la finance.
Voilà, c'était, je crois que c'était exactement ça, pour le coup.
Quelque chose à rajouter là-dessus ? L'un de vous ?
Non, juste que les plans d'austérité, comme disait Baptiste tout à l'heure, les plans d'austérité qu'il y a eu, c'est pas des plans non plus drastiques. Voilà, il n'y a pas eu de baisse des pensions de retraite, pas eu de baisse du salaire des fonctionnaires. Bien au contraire, d'ailleurs, il y a des fonctionnaires.
Il y a quand même un gel du point d'indice depuis quasiment quelques années. Vu l'augmentation du coût de la vie, on peut considérer que c'est une baisse de salaire.
Non, on ne peut pas considérer que c'est une baisse de salaire. En plus, on parle des fonctionnaires, mais dans les entreprises, le salaire n'a pas augmenté non plus. Donc, d'autres pays ont baissé le salaire. En France, il a été maintenu, voire pour certains, augmenté.
Et tu parlais des retraites, mais peut-être qu'on n'a pas baissé les pensions de retraite, mais on a quand même allongé la durée de travail, ce qui fait que d'une certaine façon, les pensions de retraite, on en touchera moins.
Non, les gens actuellement en retraite n'ont pas eu de baisse de leur pension de retraite, mais par contre, que ceux qui sont en activité travaillent un peu plus, mais c'est complètement normal. D'ailleurs, même le Parti Socialiste ne le remet plus en cause.
Mais est-ce que là, on part juste dans l'idée que les gens vont vivre de plus en plus vieux? Mais est-ce que, a priori, avec la multiplication des cancers et des choses comme ça, il n'est pas dit que l'espérance de vie ne diminue pas? Est-ce qu'à ce moment-là, on reverra l'âge de départ en retraite?
Ah ben, de toute façon, on reverra l'âge de départ en retraite dans plusieurs années, c'est clair. Mais bon, ça sera, oui, peut-être l'UMP, effectivement, qui pourra, dans 10 ou 15 ans encore, regarder le problème des retraites. Qui prendra encore les décisions courageuses qui ont été prises ces 10 dernières années.
Moi, je voulais réagir par rapport à ça. Déjà, si l'espérance de vie a augmenté, c'est notamment parce qu'on partait en retraite plus tôt. Et avec le recul de l'âge de départ à la retraite, forcément, l'espérance de vie va diminuer.
Il n'est pas du tout d'accord avec ça, Baptiste Serena. Il a fait grand sujet de désapprobation.
Ah non, voilà. pas du tout. Parce que, justement, quand François Mitterrand a choisi de passer la retraite à 60 ans, à l'heure actuelle...
Ça fait faire une crise cardiaque à plein de gens, déjà.
Ouais. Non, pas ça, mais déjà, s'il n'aurait pas fait ça, à l'heure actuelle, la question qu'on se poserait, c'est pas comment garder le système de retraite, c'est comment augmenter les pensions de retraite. Alors que là, la question, on ne peut pas la poser, puisqu'on ne peut déjà pas financer celle actuellement. Et faut pas croire que c'est les départs en retraite. Plus on va partir tard en retraite, plus on va mourir tôt. Non, faut pas croire, puisque des gens déjà à l'époque, il y a plusieurs années, partaient tard en retraite. Et il n'y a pas eu énormément de décès. C'est parce que la médecine a su combattre des maladies. Et voilà. Et aussi, on a appris à travailler autrement. Voilà, avec plus de machines,
C'est vrai qu'il y a moins d'industrialisation de métiers pénibles. Du coup, le retour à l'industrialisation en France va aussi peut-être participer à ça, finalement.
Une industrie, mais c'est plus... on va prendre l'exemple classique. Un train, il ne faut plus de charbon pour le faire fonctionner. C'est une autre méthode, c'est un autre travail. Y a des machines qui font le travail, qui facilitent le travail de l'humain. Voilà, faut vivre avec son temps aussi, quoi.
J'aimerais faire une remarque parce qu'on est à la radio et je voulais juste dire que Baptiste Serena, il a aucune fiche et que Baptiste Gérardin, il a plein de fiches partout et il travaille comme un petit fou. Enfin, je voulais juste le faire remarquer aux auditeurs parce qu'on n'est pas à la télévision et je trouvais ça sympa de le dire. Quelque chose à ajouter sur tout ça, les retraites, le triple A?
Ouais, parce que je peux pas laisser dire ce que dit Baptiste Serena tout à l'heure, comme quoi c'était pas des plans d'austérité qui avaient été drastiques, etc. Je suis désolé, moi, quand je vois qu'on augmente la TVA sur les transports, la restauration, l'hébergement, les travaux à domicile, les services à la personne, c'est des taxes qui touchent les plus défavorisés dans un pays où il y a déjà plus de 8 millions de pauvres. Et où les inégalités sont sans cesse accrues par la politique menée par l'UMP. Je trouve ça tout à fait scandaleux. Et d'autant plus qu'il s'ajoute à ça la TVA sociale. Je ne sais pas si c'est prévu qu'on en parle après.
Si vous voulez en parler maintenant, on en parle maintenant.
Mais arrêtez avec vos sticks, on a fini sur le cannabis, on a dit.
Je vais parler un petit peu de la TVA sociale. Alors, mais si j'ai beaucoup de fiches, c'est aussi parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de conneries et j'arrive pas à tout retenir.
C'est aussi qu'il y a des éléments de langage, comme on dit. Hein. Nous c'est dans la tête.
Vous n'arrivez pas à l'UMP, vous n'êtes pas spécialiste.
Non, mais en fait, à force d'aller sur le terrain, on a les arguments en tête, quoi. Voilà, on prend pas nos fiches pour aller sur le terrain.
Ce qui explique aussi quelques bourdes de temps à autre.
Non, ouais. Tout simplement, on dit ce qu'on pense. C'est-à-dire que moi, avant de venir à la radio, au niveau national, ils le savent, ils m'ont pas dit tu diras ça, non. Voilà, chacun est libre de dire.
T'es en train de dire que Benjamin Lancard nous écoute là?
Je sais pas s'il écoute.
Nadine,
je pense pas, mais bah pourquoi pas? On va voir si elle pose une question sur Twitter.
Ah oui, ça serait rigolo ça. Diazelle CQNPDN, le hashtag Nadine, ne fais pas de faute avec tes gros doigts.
Enfin, elle a dit qu'elle tweeterait plus en journée. Hein.
Bon. Je vais quand même répondre sur les éléments de langage, parce que la différence entre l'UMP et puis des partis comme le parti de gauche, c'est que nous, on lit des bouquins et on fait nous-mêmes nos propres éléments de langage. On se fait des petites fiches nous-mêmes. C'est pas le National qui nous envoie un truc tout fait et puis après on fait les perroquets.
Ah bah nous non plus. Nous,
ouais.
Ça va.
On y croit. J'ai lu les argumentaires de l'UMP sur les mensonges de François Hollande, tout ça. C'est intéressant.
C'est bien. Et justement, ça fait une parfaite transition. Alors, on va rester comme ça.
On va changer de thème.
Voilà.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent. On la rejoint.
Alors, tout de suite la question. Alors, où se situent les institutions gouvernementales de la Hollande, donc? Donc, voilà.
Dans quelle ville?
Le siège du Parlement et de l'État, quoi.
À La Haye, non?
Alors, bonne réponse de Baptiste Serena.
On aurait écrit Philippe Bouvard. Alors, vous en êtes douté, on parle des Pays-Bas, de Hollande, mais on ne va pas parler du pays, parce qu'on a déjà parlé du cannabis. Et on va donc parler de ce sympathique et goguenard François Hollande que vous aimez tous les deux. Alors, Baptiste Serena, tu préfères répondre en premier, pour parler de Hollande, j'ai pas vraiment d'angle sur lequel aborder, tu peux y aller comme tu veux.
Ben, je vais prendre la parole en premier, malgré que c'est quand même Mélenchon et ses soutiens qui en parlent le mieux. Le capitaine de pédalo, c'était... Même l'UMP n'aurait pas osé le faire, donc c'est entre amis, enfin, ou ex-amis, ou futur ami, ou futur ex-ami, on ne sait pas trop ce que c'est, qui en parlent le mieux. Hein. Mais c'est vrai, moi j'ai parlé avec un adjoint du maire de Besançon, je tairai son nom, et on était sur une aire d'autoroute, et là on voit Nicolas Sarkozy à côté d'Angela Merkel, et je lui dis, franchement, vous voyez Hollande à sa place? Et il me répond, pas du tout.
Donc, c'était un monde bourgeois, non?
Je ne dirai pas son nom, je ne dirai pas pour qui il avait voté lors des primaires. Mais voilà, en fait, François Hollande, il est tout simplement, et on le voit avec voilà, son petit jeu, aller dans les îles, parler de tout et n'importe quoi, et en fait, son programme se fait en fonction des sondages et de l'actualité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire Hollande a une conviction depuis toujours, etc.
Oh bah non, ça, c'est faux. Si on l'écoute, on peut pas dire ça. Mais est-ce que ce n'est pas finalement le fait qu'il soit plutôt la tendance centre-gauche, le pire adversaire qu'il soit pour l'UMP? Parce que c'est finalement l'antithèse complète de Sarkozy, quoi. Parce que finalement, vous ne pouvez pas trop aller sur le centre parce qu'il y a déjà...
Centre-gauche, Hollande, je sais même pas si on peut le dire qu'il est centre-gauche ou même gauche.
Moi, je dirais centre-droit, personnellement, mais...
Ben oui, il suit les pattes de François Mitterrand, sauf que lui, il a jamais été à l'extrême droite. Enfin, bref, mais François Hollande, franchement, quand on voit les propositions qu'il fait, un jour, il est d'accord avec quelque chose, le lendemain, parce qu'il y a un de ses conseillers ou quelqu'un qui lui a dit autre chose, non, c'est fini.
On va peut-être parler de la taxe Tobin, de la Libye, enfin, tous ces sujets où il y a eu revirement aussi... ou le même, il n'y a pas si longtemps, la carte de famille nombreuse de train, qui le lundi a été annoncée supprimée, le mardi a été remis par Nicolas Sarkozy. C'est un peu la politique d'aujourd'hui, ça, de changer de sens quand c'est pas populaire.
Non. Là, concernant vraiment, quand on est dans l'action et quand on fait un projet, on dit voilà, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Tandis que quand t'es dans l'action, être en fonction de l'actualité, s'adapter en fonction des événements qui arrivent. Or que Hollande ne s'adapte pas, puisque dans son programme, il y a quelque chose d'écrit, et le lendemain, il va dire autre chose, tout simplement, pas parce qu'il y a eu un événement dans l'actualité, tout simplement parce qu'il y en a un qui a dû lui dire, écoute, si tu veux vraiment que je te soutienne, ça, faut plus en parler. Et on voit que Hollande n'a aucune capacité à s'imposer, puisqu'il n'arrive déjà pas à s'imposer avec Joly, Duflot, etc., donc avec Merkel, Obama et les autres, ça risque d'être difficile. Et un chef de l'État, il a une préoccupation... c'est améliorer son pays, mais en travaillant avec les pays qui l'entourent. Donc Hollande, ça va être oui, Madame Merkel, oui, Madame Merkel. Puisque déjà, Eva Joly dit oui, donc dire oui, Eva Joly, il faut des...
Mais Nicolas Sarkozy fait un peu ça aussi avec Angela Merkel, non?
Je pense pas, quand il passe des...
Mais est-ce que Angela Merkel va l'imiter quand il sera pas là, en se moquant de lui? Comme il le fait visiblement avec Nicolas Sarkozy.
Oh ben, ça, les moqueries, que ça soit, voilà, gauche-droite, je pense que... Tout le monde y passe quand on moquerie. Mais...
Baptiste Gérardin, François Hollande, ton l'avenir pour toi?
Non, non, c'est pas mon avenir du tout. Moi, personnellement, je me vois pas voter Hollande ni au premier, ni au deuxième tour. Pour moi, le choix est déjà fait. Et je vois pas pourquoi je voterais contre ce que j'ai défendu pendant toute la campagne. Moi, je suis pas là pour critiquer les socialistes. Ils font bien la campagne qu'ils veulent. Ils
si
se prendront
une veste. Si tu commences à dire ça, c'est qu'après, tu vas les critiquer.
Non, justement, non. Je vais profiter du fait que ça parlait d'Angela Merkel pour...
On parlera de Nicolas Sarkozy après.
Oui. Ah,
le mandat de Morano, écoute.
J'aimerais bien titiller un petit peu Baptiste Serena sur le fameux modèle allemand qu'ils n'arrêtent pas de nous vendre, là, c'est VRP de l'austérité. Alors, le modèle allemand, il repose sur une précarité incroyable dont l'UMP ne parle jamais. Il y a 30% des travailleurs allemands qui touchent moins de 840 euros par mois. Un travailleur sur trois, moins de 840 euros par mois. Ça, c'est un super modèle. C'est le pays où il y a
On parlait de François Hollande. Hein.
On parle pas de la Hollande, on parle de...
Oui, mais moi, ça m'intéresse pas de critiquer François Hollande.
Donne-moi ton impression sur son éventuel programme que l'on ne connaît pas.
L'un de vous a lu le programme de François Hollande?
Il n'y en a pas.
Écoutez, moi, samedi, j'ai tracté pendant 6 heures. Il y a des socialistes qui sont arrivés avec leur petit tract. Pour l'instant, leur programme, ça se limite à un tract A4 recto verso, dont 15 points qui sont juste des critiques sur Sarkozy. Bon, voilà, ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas, ça n'a rien à programme, il n'y a rien de sérieux, c'est pas convaincant à gauche, voilà. Je pense que l'espoir aujourd'hui, c'est le front de gauche qui l'incarne à gauche. Bon. Et si je suis parti sur le modèle allemand, c'est parce que j'ai entendu la semaine dernière dans le débat entre François Mandil et Philippe Guenon, que Guenon nous a revendu une fois de plus le modèle allemand qui est tout à fait dégueulasse. Voilà.
Je ne suis pas au modem, hein. Je précise que Guenon...
oui, bien modem pareil.
Je précise que ma question était facétieuse dans le sens où le programme n'a pas encore été publié.
Mais est-ce qu'il sera publié un jour aussi?
Ah, excuse.
Est-ce qu'il sera publié un jour? Parce que pour le moment, il défend le programme de Martine Aubry.
Bah écoutez, à l'UMP, il n'y a pas encore de candidat, donc à ce moment-là, on peut aussi, si on joue vraiment sur les mots et sur
oui,
les...
Mais, là, justement, on ne passe pas tout sur un homme. Nous, à l'UMP, on a le projet. D'ailleurs, la preuve, les militants, à l'heure où je vous parle, il est présenté aux militants pour qu'ils donnent leur avis dessus, du 14 au 26 janvier. Le 28 janvier, il sera approuvé par le Conseil national. Mais voilà, nous, on a un projet qui sera défendu par un candidat.
Eh ben on va
les jeunes populaires espèrent que ça sera Nicolas Sarkozy.
Tu vas pouvoir continuer à défendre ton projet parce qu'il faut qu'on enchaîne. Hein, on a quand même encore d'autres questions. Et de toute façon, on va parler de quelqu'un qui est illustré par cette belle chanson. Je pense que tu as aimé Baptiste Serena.
Alors, tout de suite, la question. Quelle est la taille minimum pour pouvoir faire l'attraction Space Mountain à Disneyland?
1m60, non?
1m20.
C'est 1m40.
Baptiste Serena, on va parler de Nicolas Sarkozy, ton modèle, un peu, non?
Donc en fait, Nicolas Sarkozy, quand même, dans un mandat, pas mal de revirements, pas mal de choses. Soit Kadhafi en grande pompe, puis après, il faut l'éliminer. La taxe Tobin, c'est une aberration qu'on ne pourra jamais mettre en place tout seul, et puis au final, il faut la mettre en place dans l'urgence. La TVA sociale, non, oui, non, oui. Enfin bon, beaucoup de changements. Donc justement, c'est une question qu'on avait déjà abordée, mais est-ce qu'au final, changer comme ça de ligne, est-ce que c'est pas juste à des fins électorales? Est-ce qu'au final, il y a un vrai fond de pensée qui dicte la politique de Sarkozy?
Pensée électorale, je suis pas sûr, hein, puisque réforme des retraites pour gagner des voix, il y a mieux. TVA sociale pour gagner des voix, il y a mieux. Voilà. Non, tout simplement, il s'adapte à la situation, il prend les bonnes décisions. L'histoire de Kadhafi reçue en grande pompe, j'étais vraiment pas pour. Mais pour des raisons diplomatiques, des fois, on n'a pas trop le choix. Mais par là, non, il s'adapte à la situation. Et il a eu quelques changements, tout simplement pour le bien du pays. Et comparé à plus de 200 réformes qu'il a fait en 5 ans, je pense que c'est pas...
Pour toutes ces réformes, combien de décrets d'application? Est-ce que l'état de délabrement actuel de notre politique, c'est pas aussi ça, une multiplication des textes et aucun décret d'application?
Des décrets d'application, il y en a eu. Mais...
un pourcentage? Est-ce que tu as un pourcentage?
Non, j'ai pas de pourcentage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grande maladie on va dire, de la France, c'est-à-dire faire des lois, des lois, des lois. Chacun aime bien avoir son nom, voilà, la loi Intel, la loi, voilà. Chacun a son petit nom sur une loi, c'est un problème. Mais il y a loi et il y a réforme. Et des grandes réformes, il y en a eu de fait. Et celles-là, ben voilà, elles sont applicables.
On va essayer d'enchaîner assez vite, non, Baptiste Gérardin, histoire de faire un peu fuser les idées. Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ce que tu as entendu déjà?
Bah, je pense que la taxe Tobin, c'est des fins électoralistes. Je compte pas du tout sur Sarko pour faire ça. En 99, il s'était pas contenté de dire que c'est une absurdité. Il disait, si on le fait en France, on va encore le payer de dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires.
Il y a 13 ans, quoi. Il y a 13 ans, ouais. Faut pas oublier qu'on évolue, on n'est pas à gauche.
Ouais. Et bon, sur la Libye, c'est assez pitoyable. On s'adapte en fonction du sens du vent. Pour ce qui est de la TVA sociale. Ce qui est intéressant avec la TVA sociale, c'est que en fait, c'est très à la mode en Europe. C'est ce qu'on trouve dans à peu près tous les plans d'austérité. Et par contre, en France, on est le seul pays où on nous vend ça comme une mesure anti-délocalisation. C'est vraiment, on se fout de la gueule du monde, parce que la TVA sociale, ça va concerner.
Tu vas trouver ton chiffre, on y croit.
C'est le problème des fiches, hein.
Ouais, c'est ça. Mais il y a des petits numéros, donc ça, au moins c'est dans l'ordre.
Ouais. Non, mais les ménages français, ils ne consomment que 14% de produits importés. C'est un rapport du Sénat qui a montré ça en 2009. Donc ça va concerner très peu de pays, de produits, je veux dire. Et là où on se moque du monde aussi, c'est que les domaines dans lesquels on augmente la TVA, c'est des domaines où les emplois ne sont pas délocalisables. Donc on se fout du monde.
On se fout du monde, Baptiste Serena?
Non, je pense que c'est des arguments tout faits, ça. On se fout du monde, non, ça marche dans d'autres
pays.
Est-ce
qu'on se fout du monde est vraiment un argument?
Non, mais par là, ça marche dans d'autres pays, c'est clair. Et la TVA sociale, ou TVA anti-délocalisation, enfin, on peut l'appeler comme on veut. Mais justement, ça va permettre de faire augmenter les salaires des salariés français.
Ça va surtout permettre aux patrons de faire des marges, non?
Non, pas forcément. Le seul problème avec la TVA sociale, c'est que je pense qu'il aurait fallu la faire au début du quinquennat. Alors, parce que maintenant, on en payerait les fruits.
Que dire que les salaires vont augmenter avec la TVA sociale, ça revient au même que de dire que les 35 heures ont fait augmenter beaucoup le nombre d'emplois? Est-ce que c'est pas le même type de discours qui finalement sont ultra positivistes et qui sont peut-être pas forcément très réalistes?
Non, parce que ailleurs ça marche, les 35 heures. Nous, on a fait la preuve que ça marchait pas. D'ailleurs, ça a tellement pas marché que aucun pays au monde nous a imité. Hein. Pendant que les autres augmentaient la durée de cotisation pour les retraites, la durée du temps de travail, nous en France, on diminuait. Donc voilà. Pour anecdote, en Chine, quand ils font grève, ils chantent la Marseillaise pour dire qu'ils font grève. Donc voilà la représentation comme elle est bien. Donc nous, la France, on a toujours un train de retard, mais comme de par hasard, quand c'est la gauche au pouvoir.
Parce que la grève, faudrait supprimer le droit de grève, non? C'est pas.
Non, c'est parce que j'ai dit le droit de grève. Voilà. Pour certains, c'est très utile, mais par là, je veux dire que nous. On a l'image du pays qui régresse tout le temps sur le plan du travail, de la compétitivité.
Mais on avance sur le plan social et on a...
Sur le plan social, on avance, effectivement.
Je rappelle que la Finlande, qui a le temps de travail le plus bas d'Europe, a toujours son triple A et a sûrement des niveaux de vie les plus élevés d'Europe.
Alors, je donne le pari, combien de temps elle va l'avoir, son triple A?
A priori, voilà. Assez longtemps.
Et puis, il ne faut pas confondre l'Allemagne et la France. La Finlande et la France. La Finlande, le nombre d'habitants qu'il y a en Finlande, et puis le nombre d'habitants qu'il y a en France.
Je voulais juste signaler aux prochaines personnes qui vont venir à Radio Bip de faire gaffe avec la bonnet jaune. Baptiste Serena a toussé dessus comme un veau, il semble malade. Hein.
Bah oui, je ne suis pas chez le médecin.
C'est bien, c'est pour ne pas creuser le trou de la sécu.
C'est ça, non, je présente non.
Quel citoyen.
Mais comme ça, tu contamines tout le monde et tu risques de l'aggraver, attention.
Tant pis.
Si je peux conclure sur la télé sociale, c'est un moyen qu'a trouvé Sarkozy aussi. De baisser les cotisations des entreprises en même temps. Et il faut savoir que 60% des baisses de cotisations qui sont faites au niveau des entreprises, ça concerne les services, donc c'est des secteurs qui ne sont pas exposés à des délocalisations. Et puis j'aimerais aussi glisser juste un petit mot sur la suppression du bouclier fiscal, parce que c'est un moyen de faire croire que Sarkozy revient sur sa mesure tant décriée, etc. Alors qu'en fait, la réforme de l'ISF qui est faite en même temps, c'est un énorme cadeau fiscal qui est fait aux riches. Donc, d'après le Canard enchaîné, Liliane Bettencourt, elle va voir ses impôts. Donc, si on cumule impôts sur le revenu et ISF, divisé par 4.
C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière.
Baptiste Serena a l'air de penser que le Canard enchaîné est une grande source d'information.
Ouais, c'est la grande source d'information. Pour moi, c'est un tract payant de la gauche, en fait.
C'est voilà, la seule information en France qui est impartiale, qui ne dépend
pas
de la
publicité.
Impartial, tout.
Bah, il faut savoir que le Canard Enchaîné est quand même alimenté par pas mal de toutes les autres rédactions, finalement. C'est tous les papiers qui pourraient pas passer dans leurs propres journaux qui passent aussi bien de droite comme de gauche. Hein.
Surtout de gauche. Hein.
Non, des deux.
Si, non. On voit bien les attaques. Bon, après, c'est normal qu'on ait plus d'attaques, hein, puisque... Voilà, c'est ceux qui font rien qui ne se font jamais attaquer. Donc c'est normal qu'on ait plus d'attaques, mais voilà, il y a un moment, faut rester aussi dans le respect des uns et des autres. Quoi.
Encore quelque chose à dire sur le bilan de Nicolas Sarkozy ou sur ses sur son projet qu'on ne connaît pas d'ailleurs.
On ne connaît pas son projet puisqu'il n'est pas encore candidat.
Bah, vu qu'en plus, ça sert à rien d'avoir son projet vu qu'il va changer d'avis la semaine prochaine, ça se trouve.
Non, moi ce que tout le monde honnête peut reconnaître de Nicolas Sarkozy, c'est le courage. Il n'a jamais eu peur de faire une réforme parce qu'il y avait un risque d'avoir des millions de personnes dans la rue.
Il n'a jamais eu peur de la modifier après non plus.
Il s'adapte. C'est s'adapter à la situation. Le bouclier fiscal, donc voilà, le mot cadeau, ça me fait rire, mais le bouclier fiscal, pourquoi il est revenu dessus? Tout simplement parce qu'il y a eu une crise. Et la crise, qui pouvait la prévoir en 2007? Même les grandes agences de notation qui nous donnent des leçons aujourd'hui ne l'ont pas prévu. Donc.
Il y a quand même pas mal d'économistes qui en parlaient. Hein.
La crise fait bien sourire Baptiste Gérardin.
Oui, c'est un peu facile d'invoquer la crise, alors qu'en fait la crise c'est quoi? C'est l'aboutissement du modèle que Sarkozy et puis ses amis nous vendent depuis 30 ans. C'est l'aboutissement du système néolibéral. Je me souviens d'un Sarkozy en 2007 qui essayait de vendre du rêve. Alors ça c'est la grande spécialité de l'UMP. C'est de dire, il faut être réaliste, faut arrêter d'être utopique, etc. Et Sarkozy dit, tout le monde deviendra propriétaire, on va tous pouvoir posséder sa maison.
Ça a marché,
exactement. On est tous propriétaires dans la salle, là.
Propriétaire, ça marche. Ça marche.
Propriétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de payer un loyer, au lieu de payer un loyer tous les mois à un propriétaire, on paye des traites aux banques. C'est vachement mieux de s'endetter sur 30 ans.
C'est ça. Moi, j'ai acheté un appartement il y a 6 mois. Je préfère donner 500 euros par mois pour avoir un truc à moi que donner 500 euros à un propriétaire. Voilà.
Mmh. Mais méfie-toi, parce qu'en cas de révolution, ces bolcheviks vont tout te prendre. Hein.
J'espère pas qu'on arrive là.
On conclut l'histoire de Nicolas Sarkozy. On y reviendra peut-être de toute façon.
On va changer de thème.
Exactement, avec une belle chanson, un personnage que tu dois bien aimer, Baptiste Serena, mais pour de vrai cette fois-ci, enfin, si j'arrive à faire lancer le truc.
Vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi.
Alors tout de suite la question, en quelle année est tombé le mur de Berlin?
En 80.
Alors l'étudiant en histoire qui trouve pas, ça je trouve c'est assez magistral.
En 91.
Et tu dirais combien, Baptiste Gérardin?
90.
Bon, bah, près, c'était 89. Mais pour un étudiant en histoire et communiste de surcroît,
vous étiez peut-être un peu jeune pour vous en souvenir, mais quand même.
Enfin.
C'était le 9 novembre 89. Bah je le sais parce que j'y étais avec Nicolas Sarkozy. Enfin devant la télé comme lui quoi.
Et moi j'étais avec Rostropovitch, j'étais dans son violoncelle. Alors si on a mis cette petite musique et on a parlé du mur de Berlin, c'est parce qu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Alors moi je me demandais, est-ce que Mélenchon c'est pas un peu une arnaque destinée au peuple créée par la communication? Et je sens que je crée quelque chose de fort avec cette question.
Bon alors est-ce que on va essayer de parler à Baptiste Gérardin, qui est un peu un féru d'histoire romaine. Est-ce que Mélenchon, il est pas un peu comme un César, il est devenu le champion des populares, donc de la peuple, du peuple, pour servir finalement son intérêt personnel?
S'il avait voulu servir son intérêt personnel, je pense qu'il serait resté bien au chaud au Sénat encore quelques décennies, puisqu'il avait sa place assurée là-bas. Il a quand même pris des risques en quittant le PS, en créant son propre parti. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse le soupçonner de pas faire ça par conviction. Dans Des paroles et des actes, le modèle qu'il a mis en avant, c'est plutôt celui de Cincinnatus. Donc c'est un Romain qu'on a appelé pour dans le cadre d'une dictature. En fait, on lui a demandé de prendre le pouvoir pour rétablir la situation de la République qui était menacée. Il a rétabli la situation et il est rentré chez lui cultiver son champ. Et c'est l'image que Mélenchon a donnée, enfin, il a dit que son modèle c'était celui-là, voilà.
Le guide éclairé, quoi. Rappelons quand même qu'à l'époque, la dictature n'était pas quelque chose qui était imposé, mais c'était un état politique temporaire qui était décrété pour quelques années.
Tu hoches la tête, mais c'est pas très radiogénique. Hein. Mélenchon, t'en penses quoi, Baptiste Serena? Pour faire plus simple, j'espère que je vais réussir à avoir une réponse à mes questions cette fois-ci.
Moi, Mélenchon, ce que j'en pense, c'est en fait un agitateur, quoi. C'est-à-dire que...
Comme Jean-Pascal?
Il gesticule dans tous les sens. Il profite de toutes les occasions pour faire parler de lui. Et je pense que, justement, s'il avait voulu rester tranquille, c'est vrai, il serait resté au Parti Socialiste et au Sénat. Comme ça, on n'aurait pas parlé de lui. Par contre, là, il a tout compris pour parler de lui. Il gesticule, il s'agite.
Ça me rappelle quelqu'un.
Ça fait... Non, parce que il y en a... Sauf qu'il y en a un, on sait ce qu'il a fait. Il y a des résultats. Tandis que Mélenchon, quand il était ministre...
Quel bon résultat.
Ministre dans, voilà, dans un gouvernement socialiste.
Ministre de quoi, d'ailleurs?
De l'apprentissage et de la formation professionnelle.
Ah, ça où, rappelle quelqu'un d'autre.
Où ont été les résultats? Justement, quand on regarde les résultats de Mélenchon sur la formation professionnelle et Nadine Morano sur la formation professionnelle, on se dit, il y en a un qui a eu du courage, une qui a eu du courage, puis l'autre. Qui a été ministre, qui a touché un salaire de ministre. D'ailleurs, il n'a pas fait spécialement de dons aux pauvres, aux associations, lui qui nous fait pleurer tous les jours.
On ne sait pas. Hein.
Justement, ça saurait. Hein. Je pense qu'il le dirait, qu'il n'oublierait pas de le dire. Et voilà, je pense qu'il y a ceux qui font et qui disent ce qu'ils font, puis il y a d'autres qui disent ce qu'ils disent. Parce que le SMIC à 1 500 €, mais tout le monde est d'accord. Mais
1 700.
Ah, encore mieux. Alors, bon, bientôt ça sera 3 000. En 2017.
Pas non plus 1 700, ce serait vivre bien, ce serait dommage.
Mais tout le monde en rêve du SMIC. Moi aussi, j'aimerais bien que tout le monde touche 2 000 € par mois, ça serait magnifique. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Et un chef d'entreprise, il ne peut pas donner 2 000 €.
Donc, il faut qu'il y ait des pauvres pour qu'il y ait des riches, c'est ce que tu es en train de dire?
Non, mais tout simplement, la réalité économique, un chef d'entreprise ne peut pas donner 2 000 € à tout le monde.
Parce que sinon, après, il peut pas s'acheter une belle voiture.
Tout simplement, après, son entreprise, elle peut pas fonctionner. Moi, j'ai discuté avec un chef d'entreprise, il m'a dit, demain, j'augmente mes salariés, je leur donne 1 000 € de plus chacun. Par contre, je leur dis, dans un mois, vous êtes tous à Pôle emploi. Voilà.
Baptiste Gérardin, est-ce que tu t'es concerté avec tes fiches pour arriver à répondre?
Oui, non, mais voilà, c'est toujours la même technique, l'UMP. Alors, on nous fait pleurer, on y verse des grandes larmes sur les PME. Les pauvres petits patrons, comment ils vont faire, etc. Alors qu'en fait, ils ne défendent l'intérêt que des plus grosses entreprises. Alors, j'ai des petits chiffres, là, comme tu le signalais. Les très petites entreprises, le taux d'imposition, il est de 28%. Celles qui emploient environ 2 000 salariés, c'est 13%. Les entreprises du CAC 40, c'est 8%. Là, il y a des marges de manœuvre. Pourquoi on taxe pas plus les entreprises du CAC 40 et pourquoi on n'aide pas les petites entreprises à payer davantage leurs salariés?
On le fait. Par contre, quand on le fait, on est critiqué. Quand on le fait pas, on est critiqué. Et je suis désolé, le gouvernement le fait. La TVA sociale, ça va profiter aussi aux petites entreprises. Ça va profiter à tout le monde.
Pour en revenir à Mélenchon, est-ce qu'il n'y a pas une petite marge d'affection du fait qu'il a quand même eu une jeunesse byzantine?
Enfin, jurassienne, non?
Ouais, entre les deux, en fait, entre Besançon et Lons-le-Saunier.
Moi, en fait, personnellement, ça me touche pas.
Non, moi non plus, je trouve que c'est pas spécialement important. Mais pour prolonger ce qu'on disait là, j'aurais voulu aborder aussi les niches copées. Parce que c'est quand même intéressant, c'est un petit peu symptomatique. 6200 entreprises en ont profité en 2009. Et 44% des sommes qui ont été. Dont les entreprises ont été exonérées, ont concerné 10 entreprises. Donc, par exemple, Suez a été exonérée de 800 millions, Danone de 500 millions. Si c'est ça, défendre les petites PME, c'est...
Mais ça, c'est des grands fleurons des entreprises françaises. Je suis désolé, il faut les préserver. Demain, si on fait rien pour eux, demain, ils vont dans un autre pays. On aura Mélenchon qui s'agitera, qui ira voir avec ses drapeaux, avec son écharpe rouge, accompagné de son nouveau copain Pierre Laurent. Et ils iront crier au scandale parce qu'on n'aura pas sauvé les entreprises. Donc, il y a un moment, il faut prendre des décisions. L'UMP, le gouvernement les prend, les autres les prennent pas. Ils regardent, ils s'agitent. Alors justement, Mélenchon, c'est Marine Le Pen, c'est le même. Il constate.
Au moins raciste quand même.
Qu'une entreprise qui ferme, c'est dommage. Un salarié qui se fait virer, c'est triste, etc. Alors on constate, mais il faut des solutions.
Sur les aides, là, justement, il y a eu un sujet d'actualité avec le quotient familial il y a peu. Est-ce que, au final, ces aides, comme par exemple l'aide agricole européenne, qui finalement profitent aux plus grands, je pense notamment au prince Charles, qui touche quand même des sommes astronomiques de l'Union européenne, le quotient familial, c'est un peu la même chose finalement. C'est des choses qui profitent énormément aux plus aisés. Est-ce qu'il y a pour l'un comme pour l'autre. Quelle est votre opinion sur ces aides qui sont proportionnelles et finalement aident les plus favorisés d'entre nous?
Mais les aides sont proportionnelles. Pourquoi les aides seraient réservées à une catégorie de personnes?
Parce qu'ils en ont plus besoin?
Oui, peut-être. C'est clair qu'on doit aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais les autres, ils ont besoin par moment aussi d'être un peu aidés. Ils sont aidés en... Voilà.
Parce qu'ils souffrent.
Justement, c'est proportionnel. Donc la proportionnelle, elle est utilisée justement pour que ça soit le plus juste possible.
Moi, je vois pas comment on peut dire qu'on est le plus juste possible en aidant les gros et puis en laissant les autres se démerder.
Non, mais c'est aider tout le monde. Mais du fait de la proportionnalité, ça profite plus aux plus riches, c'est tout.
Oui, mais pour moi, cette histoire de caution familiale là, c'est pas du tout la solution qui correspond à la. Enfin, c'est pas du tout à la hauteur de la situation. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut rétablir les 9 tranches d'impôts qui ont été supprimées depuis 1986, sachant que ne seraient concernés que ceux et celles qui ont des revenus supérieurs à 6000 euros par mois. Hein, donc, c'est quand même pas mal. Et il faut aussi rétablir un véritable impôt sur le revenu avec une tranche supérieure digne de ce nom. Elle était de 65% en 86, maintenant elle est de 40%. Ça a profité à qui ça? Bah uniquement à ceux qui ont vu leurs impôts diminuer, ça n'a pas créé d'emploi, ça n'a rien fait, ça n'a pas fait de croissance, rien du tout.
Ça les a fait rester en France et investir, c'est tout.
Bah oui, bien sûr. vous n'arrêtez pas de prendre des mesures pour, soi-disant pour que les riches restent, etc. Ils continuent de partir pareil. Donc,
Demain, si par malheur c'est la gauche qui passe au pouvoir, ils vont nous faire ce qu'ils sont en train de faire au Sénat. Hein. Ils ont le Sénat depuis septembre, 70 taxes en plus, 39 niches fiscales en plus. Voilà. Donc c'est le laboratoire du futur, par malheur, président Hollande. Quoi.
Cela dit, vu que les prix des hydrocarbures augmentent, si on leur pique tous leurs sous, les riches pourront plus partir parce qu'ils pourront plus prendre l'avion.
Voilà. Une solution.
On touche à la fin. J'aime pas cette expression, mais j'avais envie de l'employer. On va faire le traditionnel mot de la fin. Alors, je sais pas lequel de vous a envie de dire son mot de la fin. C'est un seul mot. Hein. Je rappelle la tradition. Battez-vous. Hein.
On peut aussi dire bonjour. Visiblement, Nadine Morano écoutait l'émission, donc on peut quand même lui passer le
bah, bonjour à Nadine Morano. Alors.
Non, mais c'est un faux RT. Hein.
Ouais, bien sûr.
Alors, Baptiste Serena ou Baptiste Gérardin, votre dernier mot.
Optimiste.
Baptiste Gérardin.
Partage.
Pour ma part, ce sera source. Et bien sûr, ça ne sert à rien de dire ça. Et on va conclure l'émission en disant au revoir à tous les auditeurs. Je remercie encore Baptiste Serena et Baptiste Gérardin d'être venus. Je vous salue.
Je voudrais juste dire quelque chose à propos du Front de Gauche et du Parti Socialiste. Moi, je veux juste signaler que le Front de Gauche est beaucoup plus ouvert au débat qu'au Parti Socialiste. On avait organisé un café politique, le Front de Gauche est venu, le Parti Socialiste avait dit qu'il venait, ils sont jamais venus. Donc, juste remercier le Front de Gauche.
Ils ont pas eu de problème sur la route, peut-être?
Non, tout simplement, c'est parce qu'ils préfèrent envoyer des lettres ouvertes.
Puisqu'on est dans les petits mots, là, je voulais dire que Mélenchon sera en meeting le 24 janvier au Palais des Sports à 20h. Voilà.
Est-ce qu'il va marquer des 3 points?
C'est ce que j'ai demandé. Est-ce qu'il nous fera une petite démonstration de gymnastique? On le verra le 25 janvier, le 24. Bien, au revoir à tous et puis bonne suite des programmes sur Radio Bip. On vous embrasse tous, les twittos, les gens qui écoutent et les gens qui écoutent pas. Je les embrasse quand même, je suis sympa. Salut.
Radio Bip, l'indépendance dans les oreilles.
Eh ouais.